Un jour dans l'histoire. Une émission de la rédaction de Canal Académie. On retrouve Christophe Dickès.
Bonjour à toutes et à tous, merci d'être à l'écoute de Canal Académie. Je reçois Isabelle Schmitz. Isabelle, bonjour.
Bonjour Christophe.
Alors, vous êtes membre du comité de rédaction du Figaro hors série, journaliste donc. Vous êtes hispanisante et vous entamez une série de portraits avec nous sur la découverte du Nouveau Monde. Ce sont des portraits, disons, que l'on va situer un peu dans la lignée du haut fil des pages consacrées aux Mayas. Les Mayas qui étaient le thème du Figaro hors série du mois de janvier dernier. Alors, plusieurs portraits. Le premier d'entre eux est consacré à Hernán Cortés. Quelles sont, Isabelle, ses origines ?
Alors, Hernán Cortés est un des plus connus des conquistadors. C'est celui qui conquiert le Mexique. Il est issu d'une famille noble d'Estrémadour, noble mais désargentée. Donc, il est promis à une vie pas très glorieuse s'il reste en Espagne. C'est du moins ce qu'il pense, puisqu'après de courtes études de droit, il s'embarque à 17 ans pour le Nouveau Monde en espérant pouvoir y trouver la gloire. Il s'y établit en fait comme d'abord clerc de notaire et puis ensuite il devient le secrétaire du gouverneur de Cuba qui est Diego Velázquez, avec qui il participe en 1511 à l'expédition dite de Cuba. Et c'est là donc qu'il fait ses premières armes. Il ne se fait pas excessivement remarquer, mais il se révèle au fil des ans pour ses qualités d'homme de pouvoir, ou en tout cas de militaire, et c'est pourquoi Diego Velázquez, le gouverneur, lui confie l'expédition du Mexique, du Yucatan, en 1518. Et c'est là le départ et l'origine de sa gloire.
C'est assez tardif finalement, parce que 1518, il est né en 1485. Pour l'époque, c'est une charge tardive.
Oui, c'est assez tardif, et c'est vrai que ma principale source de connaissance, c'est Bartolomé Benassar, qui est un des grands spécialistes, et qui le souligne, qui dit il se révèle seulement à 34 ans, lui qui était plutôt un homme de l'ombre et quelqu'un qui ne s'était pas révélé de manière spectaculaire, va pour le coup s'imposer et son génie militaire et son don charismatique en fait auprès des hommes va éclater aux yeux de tous, mais à 34 ans.
Donc il navigue jusqu'à Cozumel et Tabasco.
Exactement. Et là, il met en déroute les Mayas qu'on a pu voir dans le film Apocalypto, pour ceux qui ont vu ce film de Mel Gibson. Donc les Mayas qui étaient un empire assez bien constitué. Quand les Espagnols arrivent, ils sont pas mal en décadence, mais c'est encore un pouvoir certain. Et donc Cortés les met en déroute et rencontre à ce moment-là une de leurs esclaves. En fait, on lui donne des femmes en cadeau. Et parmi ces femmes, il rencontre celle qu'on appellera Doña Marina, qui s'appelle Malintzin aussi en indien, et qui sera l'un de ses atouts majeurs dans cette conquête, puisqu'elle est bilingue, elle parle à la fois aztèque, maya, elle va apprendre l'espagnol très vite et elle va lui être d'une utilité énorme et infinie dans la compréhension de ces peuples.
Donc il va progresser bien évidemment, il est toujours dans une perspective de progression, il se dirige vers les terres, il fait même couler ses vaisseaux, pour enlever la tentation à ses soldats, la tentation du retour bien évidemment. Quelle est la suite de sa progression ?
Alors, la suite de sa progression, c'est qu'il se dirige vers le royaume aztèque, puisque tous les Indiens qu'il rencontre parlent d'un terrible empereur, Moctezuma, qui fait régner la terreur autour de lui. Au fur et à mesure qu'il progresse, il devient l'allié de certains peuples qui avaient été soumis par les Aztèques. Et tout le monde parle de la fabuleuse cité de Tenochtitlan, puisque c'est le premier nom, en fait, c'est le nom d'avant Mexico. Mexico étant le nom de la ville espagnole qui sera fondée ensuite. Mais bref, il arrive en 1519 à Tenochtitlan, et il entre pacifiquement dans la ville. Moctezuma, en fait, on pense que, d'une part, il avait connaissance de l'arrivée de Cortés, de son armement, il avait un système d'information très très bien fait, avec des émissaires qui lui donnaient des peintures, en fait, peintures sur toile, qui décrivaient précisément l'armée, le nombre qu'ils étaient, etc. Et en plus de cette connaissance, il avait eu probablement des prédictions faites par des prêtres de certains hommes blancs qui devaient arriver et qui étaient peut-être l'incarnation ou la réincarnation de Quetzalcoatl, l'un des principaux dieux aztèques. Et donc c'est pourquoi, pour toutes ces raisons-là, on pense qu'il les accueille pacifiquement. Et il y a une première période d'observation, mais qui dégénère assez rapidement. En fait, les Espagnols restent quelques mois dans cette ville. Au cours de cette année-là, Cortés doit s'absenter parce qu'en fait, le gouverneur de Cuba est furieux qu'il soit parti. Il est plus ou moins parti en douce, je dirais, parce que Diego Velázquez se doutait que Cortés allait vouloir prendre beaucoup de pouvoir. Et donc, au dernier moment, il se dit « Non, finalement, je ne vais pas l'envoyer ». Mais Cortés, ayant eu vent de cela, part avant d'avoir reçu l'ordre de ne pas partir. Mais il est rattrapé tout de même par une armée donc qui vient de Cuba et qui est là pour le détrôner, entre guillemets, et prendre le pouvoir. Donc le temps qu'il aille finalement lutter contre d'autres Espagnols, la révolte éclate à Tenochtitlan, les Aztèques se révoltent, Cortés fait chemin arrière après avoir défait les Espagnols envoyés par Velázquez, revient là-bas, mais c'est déjà trop tard, c'est l'anarchie. Moctezuma meurt dans des circonstances très bizarres, très troubles, on n'arrive pas à savoir finalement qui l'a tué. Et le 30 juin 1520, c'est la noche triste, la nuit triste, au cours de laquelle Cortés va perdre plus de la moitié de ses hommes à cause d'une révolte générale des Aztèques. Et on a gardé, les chroniqueurs de l'époque nous ont donné de cette nuit des descriptions assez terribles, puisque donc la moitié, il y a un bon tiers qui meurt sous les coups des Aztèques, mais l'autre tiers qui est sacrifié sous les yeux même des Espagnols qui se sont repliés dans leur camp et qui voient leurs camarades se faire immoler sur la pierre des sacrifices, le cœur arraché, et voilà, chose qu'on peut voir d'ailleurs dans le film de Mel Gibson qui concerne les Mayas, mais qui avait lieu également et à plus forte dose, je dirais, chez les Aztèques.
Alors, la ville est prise finalement 1521 et c'est là où est fondé Mexico.
Exactement. En fait, la ville est rasée, Tenochtitlan est rasée par Cortés et ses hommes, a été en partie pas mal détruite par tous les affrontements, mais ils tiennent à rebâtir sur ce site assez fabuleux d'une ville qui est au milieu d'une lagune, la nouvelle ville de Mexico et qui devient la capitale de la Nouvelle-Espagne.
Alors, il y a, après ce que vous appelez toute la période de la révélation tardive d'un grand conquistador, une nouvelle époque qui est une époque que vous qualifiez de période sombre, la période sombre de la conquête.
Oui, en fait, c'est assez curieux de voir que Cortés a peut-être les défauts de ses qualités, c'est-à-dire un homme très actif, un homme entreprenant, et donc, au lieu de profiter, je dirais, tranquillement, toute proportion gardée, parce que c'était quand même un équilibre précaire, mais donc au lieu de profiter de cette conquête de Mexico et d'ordonner paisiblement la vie là-bas, il se lance dans une nouvelle conquête au Honduras. Et là, il emmène une bonne partie de ses troupes pendant 2 ans dans une expédition qui va se révéler désastreuse parce que les conditions naturelles sont très dures, les hostilités rencontrées sont importantes. Et en plus, il a fait l'erreur de laisser le gouvernement de Mexico à plusieurs hommes et non pas à un seul en qui il avait confiance.
Oui, parce qu'il a été nommé évidemment gouverneur et capitale générale de la Nouvelle-Espagne.
De la Nouvelle-Espagne, exactement. Voilà. Charles Quint, l'empereur, a une grande confiance en lui, donc reconnaît ses talents, mais le gouverneur n'étant pas là, ceux qu'il a désignés comme ses représentants se disputent, il y a des haines, et ça va même très loin, puisque certains sont mis à mort par d'autres, le majordome de Cortés est torturé parce qu'on essaie de lui voler ses biens, enfin bref, il reçoit en fait une lettre d'un de ses fidèles qui lui raconte tout ce qui se passe. Et Bernard Díaz del Castillo, qui est un chroniqueur de l'époque, qui est à côté de Cortés, raconte que lorsqu'il eut achevé sa lecture de la lettre, il fut pris d'une telle tristesse qu'il se retira dans son appartement et commença à sangloter. Parce qu'en fait, il comprend. Et donc, pendant 3 jours ensuite, il fait faire des processions et dire des messes à l'Esprit-Saint pour choisir la meilleure solution et voir comment récupérer ce désastre. Et en fait, ce désastre réellement ne se récupérera véritablement jamais, même si les Espagnols et Cortés rentrent à Mexico, essaient de faire régner l'ordre. La couronne espagnole a décidé d'envoyer à ce moment-là une audience de juges pour essayer d'arbitrer, de voir ce qui se passe. Très mauvais choix en réalité, très mauvais choix humain, parce que les 4 juges qu'elle envoie sont des gens intéressés, cupides, débauchés et qui vont en fait empirer considérablement les choses et obliger Cortés à se rendre en Espagne en 1518 pour s'expliquer de tout ça et essayer de rétablir l'ordre.
Quel accueil donne Charles Quint à Cortés ?
Alors, il lui donne à la fois un très bon accueil en donnant l'ordre à toutes les villes dans lesquelles il va passer de bien l'accueillir. Il lui ménage des honneurs, il lui donne le titre de marquis de la vallée de Oaxaca avec 23 000 vassaux à sa charge. Donc, il le traite très bien, mais il ne lui donne pas les pleins pouvoirs. Et ça, Cortés ne s'en remettra jamais. Ce qui est étonnant aujourd'hui, c'est de voir que Benassar, qui est un historien spécialiste de toutes ces périodes, avec une mentalité moderne, qui pourtant pourrait trouver cela normal de diviser les pouvoirs, dit qu'en fait, ça a sûrement été la principale erreur dans toute cette conquête. Il nous dit qu'en fait, le gouvernement espagnol jugeait inopportun de confier tous les pouvoirs à un seul, mais que Cortés pouvait vraiment bénéficier d'une exception, puisqu'il avait prouvé sa fidélité au roi, à Dieu. Il avait un très grand souci de l'évangélisation et un très grand respect des religieux. Et donc, Benassar dit que si on lui avait donné les pleins pouvoirs, il aurait probablement établi réellement un nouveau monde. Mmh. Assez loin des cupidités, des haines, sans faire de lui un saint pour autant. C'était un homme à femme, il y a eu pas mal d'histoires à cause de ça. Il était aussi certainement avide de pouvoir, mais avec un grand respect tout de même des Indiens et des territoires qu'il conquérait.
Mmh. L'empire de Charles Quint, finalement, était trop grand pour que Charles Quint puisse se tourner aussi également vers cette nouvelle Espagne.
Ben c'est au moins l'analyse de Benassar, oui, qui dit qu'en fait, en gros, il n'y avait pas de génie politique à la hauteur de Cortés à l'époque, si ce n'est Charles Quint, mais qu'il y avait tellement d'autres soucis en Europe que le Nouveau Monde était pour lui trop lointain. Et d'ailleurs, on le verra à la fin de la vie de Cortés, là j'anticipe un petit peu, mais quand il finit par revenir en Espagne, retenter une nouvelle fois sa chance auprès de l'empereur et lui montrer qu'il est capable de tout, il participe avec lui à l'expédition d'Alger en 1540, et en 40 et 41 en fait. Et en 41, il y a un désastre maritime au large des côtes africaines et Charles Quint réunit un conseil de guerre pour savoir ce qu'il faut faire et il ne convoque même pas Cortés pour lui demander son avis. Alors que Cortés, lui, qui a connu toutes ces situations, est d'avis de continuer, se dit que militairement, les Espagnols peuvent conquérir Alger, qu'il n'y a pas de problème. Et il en est très, très affecté. Et à partir de ce moment-là, c'est la fin. Il prend acte du fait qu'il ne compte plus. Et on pense aussi que Charles Quint n'a pas pris la mesure de ce qu'il a réellement réalisé au Nouveau Monde, peut-être parce qu'il n'y est jamais allé et que pour lui, tout ça, c'est une légende.
Alors, Cortés, après son premier retour en Espagne, va revenir dans cette nouvelle Espagne, en Amérique du Sud, pour récolter en quelque sorte les fruits de la conquête, et notamment religieux, hein, parce que nous ne l'avons pas dit tout à l'heure, mais dès 1522, il fait appeler des franciscains afin d'apporter la civilisation catholique et gréco-latine.
Oui, parce que en fait, l'évangélisation était vraiment une des priorités de cette conquête. On parle aujourd'hui beaucoup de la soif de l'homme, et du goût du pouvoir qui existait certes, mais l'évangélisation était un début de premier. Et on a notamment une anecdote de l'arrivée de 12 franciscains que Cortés a réclamé à l'empereur et devant lesquels Cortés vient s'agenouiller. Et alors ça, ça fait, paraît-il, une impression extrêmement forte aux Indiens qui sont là, de se dire mais le grand chef se met à genoux devant ces gens qui ont l'air pauvres, qui n'ont pas de pouvoir, et cela va compter énormément dans le respect qu'auront les Indiens vis-à-vis des franciscains, des dominicains et des différents religieux qui seront là.
Alors quels sont les fruits donc de cette conquête?
Alors les fruits de cette conquête, il y a évidemment l'évangélisation, on a un certain nombre de conversions. Au départ, elles sont très progressives et pas très nombreuses pour plusieurs raisons, mais entre autres celle aussi de l'exemple lamentable donné par beaucoup d'Européens, d'Espagnols qui sont là, notamment les membres de l'audience qui vient juger et qui fait régner malgré tout un équilibre qui n'est absolument pas sain. Donc les Indiens ont du mal à accepter ce discours chrétien en voyant le comportement de certains chrétiens. Mais tout de même, l'Église bénéficie de plus en plus du crédit de la population et de l'appui du pouvoir, puisque quand Cortés rentre, il renforce tout ça. Il fait également fructifier ses terres. On dit que c'est lui qui conçoit un peu tout le système agricole d'une grande partie du Mexique. Il fait pousser du blé, des fruits, de la vigne, il élève du bétail. C'est donc un rendement immédiat qui est très fructueux pour le pays. Et voilà, disons qu'il introduit, et en plus, bien sûr, il introduit l'espagnol comme langue qui deviendra, qui va se répandre assez vite et qui va être assez vite appris par les Indiens. Le rôle de Malintzin, sa femme, enfin, il ne l'a jamais épousée, mais en tout cas, elle a été sa maîtresse pendant de nombreuses années, elle lui a donné plusieurs enfants. Son rôle est énorme puisqu'elle incarne, en fait, l'assimilation des Indiens. Et Cortés va entraîner aussi beaucoup d'Espagnols à épouser des Indiennes et donc va lancer le phénomène du métissage qui aujourd'hui est encore très, très réel en Amérique latine. Beaucoup, on estime, je crois, à 70% la population métissée et donc les origines espagnoles sont de beaucoup d'Indiens sont réelles, ce qui n'est pas le cas, par exemple, en Amérique du Nord où le métissage ne se fait quasiment pas.
Alors, il y a bien d'autres épisodes, notamment celui de l'arrivée d'Antonio de Mendoza, hein, vice-roi de Nouvelle-Espagne, avec toute la question derrière de la conquête de la Californie. On en arrive à la fin, si vous le voulez bien, Isabelle, de la vie d'Hernán Cortés. C'est une fin de vie très amère. Vous explosiez tout à l'heure cette expédition d'Alger pour laquelle on ne demande pas son avis, alors qu'il était rompu à toutes les techniques et tous les problèmes qui pouvaient se présenter dans ce genre d'expédition. En 1542-1545, oui, ce sont ces dernières années qui sont des années amères.
Ce sont des années amères, effectivement, parce qu'il ne s'est pas entendu avec le vice-roi, donc Antonio de Mendoza, qui a visiblement beaucoup de torts à son actif. Et donc, il rentre en Espagne, il accable Charles Quint de lettres pour lui rendre justice, qu'on lui verse l'argent de ses terres en Nouvelle-Espagne, l'argent n'est pas versé. Et l'empereur se lasse, en fait, et se détourne un peu de ce grand personnage, qui meurt à peu près ruiné, mais pas totalement abandonné. On sait qu'il a des funérailles absolument solennelles. Il demande à ce que tous les religieux présents à Séville, puisqu'il est enterré à Séville, viennent à sa messe d'enterrement. Et il fait dire 5000 messes. Ça nous paraît aujourd'hui un chiffre assez énorme, mais 5000 messes, 1000 pour les âmes du purgatoire, parmi lesquelles on pense qu'il s'inclut, 2000 pour le salut des âmes de tous ceux qui l'ont accompagné lors de ses conquêtes, et 2000 pour tous ceux à qui il aurait pu faire du tort. Et j'avoue que cette fin de vie et ce testament est largement commenté par Bartolomé de Benassar, qui nous dit que ça nous montre tout de même la mesure humaine de cet homme qui, certes, a fait beaucoup de choses pour arriver à ses fins, a eu certainement beaucoup de torts, mais a eu également le souci vraiment des hommes, du salut de son âme et la gloire de Dieu, en fait, à travers ses conquêtes et à travers ce continent qu'il a contribué à faire connaître.
Eh bien Isabelle, merci beaucoup pour ce portrait d'Hernán Cortés. Nous renvoyons nos auditeurs au livre de Benassar, donc consacré à Cortés, qui est paru aux éditions Payot. Merci beaucoup Isabelle et à très bientôt. Restez à l'écoute de Canal Académie.